Christophe Géréti a accepté l'invitation des Gilets jaunes. Le député de la première circonscription de la Corrèze s'est rendu ce lundi après-midi à Saint-Angèle, sur le rond-point occupé depuis le 17 novembre par les Gilets jaunes de la 23. De nombreux sujets ont été abordés durant plus de deux heures d'échanges, échanges qui se sont toujours déroulés dans le calme. Christophe Géréti, on est le 3 décembre sur le rond-point occupé par les Gilets jaunes de l'A23 à hauteur de la sortie 89 de l'A89. Vous sortez d'une discussion de plus de deux heures avec ce groupe de Gilets jaunes. Avant de parler de la discussion, comment vous trouvez leur cabane ?
Ils sont innovants et ça reflète bien les Corréziens et les gens du rural. Ils savent s'adapter à tout contexte avec intelligence et modération, puisqu'on voit quand même qu'il y a une propreté autour.
Je le disais, deux heures d'échange avec les Gilets jaunes de l'A23. Qu'est-ce que vous retenez de cette conversation ?
Ce que je retrouve, c'est l'intelligence du débat, c'est-à-dire qu'on a eu un vrai échange. Ils ont fait part à la fois des éléments locaux et des éléments nationaux qui leur posent problématique. Donc ils nous demandent de trouver des solutions. Ils comprennent aussi les difficultés, qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Par contre, on est là aussi. Et ils nous demandent de faire remonter de façon intelligible et compréhensible leurs demandes. C'est pour ça qu'on a une liste qu'on a adaptée, en ayant déjà fait des remontées des choses, mais pour montrer aussi que c'est des gens qui sont là pour mettre en valeur le travail et ne pas toujours être taxés. On a ici des gens qui sont plutôt des travailleurs. On a des gens ici qui comprennent et qui ont une vraie vie de familiale, une vraie vie de travail, une vraie vie humaine, et qui aujourd'hui se retrouvent dans un moment difficile parce que c'est une accumulation de plusieurs années de hausse de taxes ou de difficultés telles et telles, et qui aujourd'hui rejaillissent sur la 23, comme on l'appelle ici.
Vous avez parlé de l'intelligence des débats. On a au début qualifié les revendications des Gilets jaunes de confuses, voire brouillonnes. Les échanges ont été pointus. Certains connaissent plutôt bien leur dossier. Est-ce que des revendications vous ont marqué en particulier ?
Tout est marquant. On retrouve bien qu'en fait, que les gens veulent que le travail paye. Et ça, c'est flagrant ici. Ce qui est remarqué aussi, c'est qu'ils aimeraient qu'on remonte plus les informations. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Quelle est la relation entre les maires, les députés ? Ça, c'est important parce qu'on a vu qu'en fait, ce qui était un conseil communautaire ou un conseil municipal, pour eux, ça ne voulait plus rien dire et qu'ils voulaient toucher leurs parlementaires en direct. Donc, du coup, on va peut-être organiser quelques réunions avec les Gilets jaunes et les autres régulières pour faire remonter ce que font les parlementaires et quelles sont les problématiques locales. Voilà. Donc, en fait, plusieurs sujets à plusieurs niveaux. Je trouve que, justement, par rapport au début, les choses ont été, et au moins sur ce site-là des Gilets jaunes, assez bien calibrées, assez bien expliquées.
Vous êtes député, vous ne vous sentez pas un peu pris entre guillemets en otage par la position d'Emmanuel Macron qui réduit complètement votre marge de manœuvre ?
Non, on fait partie d'une majorité, on sait très bien que le programme qu'on a voté aujourd'hui, on essaie de l'appliquer, hein, c'est ce qui est voté. Il y a des impacts très positifs, d'autres plus négatifs, d'autres plus complexes, donc on est là aussi avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le président de la République et le Premier ministre, pour trouver des solutions pour les gens qui nous auront fait remonter les problématiques réelles hein, et non pas fictives.
Vous venez au contact des Gilets jaunes, de plus en plus de responsables politiques et de journalistes expliquent qu'on trouverait une volonté du gouvernement de laisser pourrir la situation. Est-ce que c'est pas un jeu dangereux si c'est le cas ?
Oui, je crois qu'on n'est pas quand même là-dessus. On sait très bien que l'objectif quand même, et on l'a dit au départ, c'était de redonner du pouvoir d'achat. C'est quand même, on a été élu pour ça. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas complètement le cas, notamment dans les territoires ruraux. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que les ministres souhaitent que la situation vous pourrisse, parce qu'on voit le résultat quand même à Paris.
Sur ce rond-point de l'A23, on trouve des maraîchers, des agriculteurs, des salariés de la fonction publique, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des chômeurs, des personnes qui ont voté à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, peut-être Emmanuel Macron, des abstentionnistes. Aux dernières nouvelles, des lycéens seraient en train de se mettre en grève en région parisienne du côté d'Aubervilliers. Vous ne craignez pas qu'Emmanuel Macron soit en train de provoquer ce qu'on appelle la convergence des luttes, cette fameuse convergence qui fait peur à tous les gouvernements ?
Oui, je pense que c'est pas l'objectif d'avoir la convergence des luttes. Alors pour revenir aux lycéens, moi j'en ai tous passé au lycée, enfin une bonne partie. Je pense que l'objectif des lycéens c'est d'apprendre et d'apprendre au mieux, parce que la réussite n'est que celle de la République et en passant par les écoles c'est toujours mieux. Au-delà de ça, je pense que la convergence des luttes n'est pas l'objectif des Gilets jaunes au départ. Et je pense que c'est plutôt en fait se faire entendre sur des choses pragmatiques, et vous l'avez très bien dit, avec les personnalités ou les catégories socioprofessionnelles qui étaient présentes aujourd'hui dans l'A23.
Un rétablissement de l'ISF, une augmentation du SMIC,
aligner le régime social des indépendants sur le régime classique de la Sécu. C'est des revendications des Gilets jaunes, c'est inenvisageable.
La difficulté, elle est toujours la mécanique, c'est-à-dire qu'on avait pris la décision pour l'ISF pour qu'il y ait un réinvestissement des gens qui ont de l'argent dans l'économie. On a 2 ans pour l'analyser. Après, pour le SMIC, on sait très bien que si on doit l'augmenter, ça a un coût énorme. Et puis, il faut réaugmenter tous les salaires derrière. Donc, c'est des mesures qui ne sont pas prises en 15 jours et qui ne peuvent être prises comme ça. L'objectif reste quand même de trouver la solution soit en hausse, soit en baisse de taxes d'impôts, qui reste quand même la principale problématique de la population française aujourd'hui.
Vous pensez sincèrement que la taxe carbone, ça va sauver le monde, entre guillemets ?
C'est un outil parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ça avait été voté pour aligner le diesel. On l'a tous voté, tout le monde a été pour. Les conséquences n'ont peut-être pas été mesurées. D'accord, le Premier ministre a dit très clairement que l'étude d'impact, comme on l'avait lu lors de la loi de finances, n'affirmait pas cette telle hausse, puisqu'on a eu des impacts aléatoires dus à la géopolitique. Bon, au-delà de ça, on est tous d'accord pour la transition énergétique. Après, il faut qu'on arrive à la mesurer.
Emmanuel Macron se fait un grand défenseur de l'Europe. Quand il a fallu sauver les banques à l'occasion de la crise de 2008, l'Union européenne a été capable de mobiliser des centaines de milliards d'euros pour sauver le système bancaire. Ce ne serait pas plus efficace de mobiliser des centaines de milliards d'euros de l'Union européenne pour la transition énergétique ?
C'est l'objectif. On a 2 éléments, le cadre financier pluriannuel où on va bloquer quelques milliards d'euros, voire des centaines de milliards d'euros pour la transition énergétique. Donc c'est déjà en route pour être rapporteur de ce budget-là. Donc ça, c'est le premier élément. Et exactement comme pour les banques, à un moment, on a des choses qu'on doit sauver ou qu'on doit améliorer. Il faut que l'Union européenne mobilise ses fonds et ça sera fait pour la transition énergétique, comme ça a pu être fait pour d'autres éléments, comme ça sera fait pour les industries aéronautiques et comme ça sera fait pour certainement d'autres sujets qui arriveront au fur et à mesure des problématiques nationales ou internationales.
En France, selon le magazine Entreprendre, entre 2009 et 2015, le taux d'imposition des bénéfices sur les banques n'a été que de 8%, bien loin du taux officiel de 33,5%, ce qui représente un manque à gagner de 15 milliards pour l'État. Vous comprenez que ça puisse mettre en colère une partie de la population ?
Oui, on comprend tout à fait ça. On a un sujet sur l'impôt sur les sociétés, que nous on souhaite avoir une harmonisation européenne, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'impact, que ce soit les banques, que ce soit le numérique, il délocalise une partie dans les pays où l'impôt sur les sociétés est plus faible. Pour nous, il est de le baisser aussi. Hein. On a commencé à le mettre en œuvre pour les entreprises et les petites entreprises, parce qu'à partir du moment où on réduira l'impôt sur les sociétés, ça leur permettra à eux de réinvestir aussi. Donc voilà, donc il y a une mécanique qui était mise en place, qui commence à être évolutive, mais qui n'est pas réaliste en 15 jours, qui est plutôt réaliste sur 3-4 ans et qui doit aboutir à la fin du mandat.
Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si une manifestation sera à nouveau autorisée à Paris samedi prochain. Quel conseil vous donneriez au gouvernement en fait ? Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence samedi prochain ? On attend qu'il y ait un mort aussi bien du côté des manifestants que des policiers avant de réaliser l'importance de ce mouvement ?
Je pense qu'à Paris, c'est un peu plus particulier qu'ici. On a une convergence, cette fois-ci, peut-être des luttes ou des différences qui amènent aux dégâts et à l'inqualifiable dégradation qu'on a pu avoir à Paris. Moi, je considère que ce n'est pas ce type de manifestation qui apporterait les choses. La présence ici et la permanence dans les territoires apportera certainement plus de possibilités de réponse que d'aller à Paris et que je considère aussi, et je l'avais dit, à la représentante des Gilets jaunes ici, et je lui avais prévenu vendredi quand on avait pris le rendez-vous et fixé cette date-là, qu'il fallait faire très attention et que si ça commençait à dégénérer, je le conseillais de partir vite parce que ça se passerait mal. Et malheureusement, des fois, on sent bien les choses, mais il suffit de vivre malheureusement un peu à Paris et de voir un peu comment ça évolue très rapidement à certains moments. Voilà. Je pense qu'il faut, manifester, mais il faut peut-être éviter quand on voit que ça part comme ça. Je pense qu'on a beaucoup plus d'attaches à travailler avec eux et à discuter avec eux, qu'on a beaucoup plus d'intérêt à ce que le gouvernement reçoive les doléances ou les propositions avec des représentants ou avec les syndicats qui reviennent peut-être dans le jeu, mais avec intelligence, ou les partis politiques qui aujourd'hui avaient perdu beaucoup de sens. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont jamais eu de carte, parce que le sens du parti politique, c'est l'idéologie, mais c'est aussi trouver les solutions. Et je pense que depuis des années, ils ne les avaient pas trouvées. Donc ça va peut-être leur permettre de tous réfléchir.
Enfin, on entend de plus en plus d'analystes, de responsables politiques, de gilets jaunes, des gens de la population qui expliquent qu'ils sont inquiets, qu'ils trouvent vraiment la situation inquiétante. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ?
L'inquiétude, elle est normale à partir du moment où vous avez des gens qui manifestent pour plusieurs choses et qui ne voient pas de porte de sortie, un gouvernement qui essaie d'en trouver et ça ne se trouve pas facilement, et puis les gens qui n'ont pas envie d'être embêtés le week-end. Donc Il faut être vigilant sur ces éléments-là. Je pense qu'en Corrèze, on arrive à maîtriser globalement les services de l'État, les élus locaux et puis les membres des Gilets jaunes avec responsabilité. Voilà, il faut qu'on fasse attention à ce que ça parte pas sur des sujets, ou plutôt ça parte pas en pugilat organisé vis-à-vis de tout le monde, parce que personne n'y trouvera son compte à la fin.
De leur côté, si les Gilets jaunes de la 23 ont salué la venue du député Christophe Géréty, ils ne sont pas convaincus par les réponses apportées par celui-ci à leurs revendications.
Philippe Noric, on sort de plus de 2 heures de discussion avec Christophe Géréty, député de la première circonscription de la Corrèze. Qu'est-ce que vous retenez de cette discussion ?
Eh bien, on a un député qui est très à l'écoute, ce qui est bien, donc le courage de venir, ce qui est très bien, surtout avec ce temps-là. Après, le problème, c'est qu'il n'a pas de solution concrète à proposer et surtout pas de solution rapide. Donc on reste dans l'expectative et puis voilà, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour sortir du conflit tout de suite, rapidement,
ce qu'on veut. On reste dans la politique actuelle. On dit on reste dans ce qu'on a prévu pour l'instant et on verra les solutions qu'on peut apporter en fonction de ce qui se passe. Et pour l'instant, il dit on reste dans la politique actuelle et c'est ce qui ne nous convient pas en fait.
Vous pensiez que ce député de la majorité pouvait arriver aujourd'hui avec des propositions concrètes ?
Non, déjà, le fait d'avoir un député là, c'est qu'il commence à réfléchir, parce qu'on n'aurait jamais eu ça avant. Le fait d'avoir un député dans une cabane avec des gilets jaunes, je pense qu'il commence à se poser des questions pour venir. Sinon, il ne serait pas venu.
Non, on ne pensait pas avoir des réponses concrètes aujourd'hui, mais on espérait qu'il arrive en disant l'État va peut-être, ou va sans doute... pas faire volte-face, mais vous donner quelques bonnes réponses. On espérait ça, pas de réponses très concrètes, mais au moins une avancée significative, ce qu'on n'a pas eu.
Quelles mesures du gouvernement pourraient vous satisfaire ?
Dissolution de l'Assemblée nationale, oui, pour changer. Et puis les mesures concrètes, toutes celles qui ont attrait au pouvoir d'achat. Obligatoirement, pour que les Français récupèrent justement un peu d'argent. Et on retrouve par ce biais-là une économie. Parce que si on supprime l'économie, la France n'avancera plus.
Moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent leur arrogance de ne pas nous écouter. C'est-à-dire que quand on va manifester, qu'on ne nous gaze pas toute la journée. Moi, j'étais manifesté samedi à Paris, je me suis fait gazer de 8h30 à midi. Et on n'a pas écouté, on n'a été que gazé. Donc voilà, si c'est ça l'écoute de la politique aujourd'hui, moi ça me convient pas, quoi.
Alors pour le moment, on ne sait pas si une manifestation sera autorisée ou non samedi à Paris. Dans tous les cas, j'imagine que vous restez dans la cabane. Et est-ce que vous montez à Paris pour un quatrième acte malgré tout ?
Pour moi personnellement, oui, c'est prévu. Je remonte samedi. Après, il y en a d'autres qui sont prévus de rester sur la cabane.
Donc ma femme montera à Paris sans doute. Bon, mais moi je vais rester là, parce qu'on a une entreprise et des enfants, donc il faut bien qu'il y ait des caisses bougo, puis la cabane bien sûr. Voilà.
Christophe Géréty, le député avec qui vous avez échangé, a pris vos revendications. Vous avez un nouveau rendez-vous prévu avec lui pour faire un point ?
Alors non, il n'y a pas de nouveau rendez-vous. Il nous a promis par le biais de sa suppléante qu'on aurait des réponses. Et donc je pense qu'on va la recontacter, ça ne se fera pas tout de suite, on va laisser passer peut-être un mois ou deux. Il nous a demandé un peu de temps, qu'on n'a pas, mais bon, après, on a beau l'appeler, si, comme il a dit, elle est suppléante, elle n'a pas de statut, elle ne nous répondra pas si elle n'a pas de réponse. Après, nous, on est toujours là et on continuera à manifester et à revendiquer, bien entendu.
L'idée de se voir tous les 3 mois pour discuter de ce qui était des projets qui sont à voir, il n'était pas contre de nous voir tous les 3 mois pour discuter. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais bon, on verra bien à l'avenir, quoi, s'il tiendra parole.
J'ai entendu dire que vous aviez déjà prévu un repas pour le réveillon de Noël, c'est vrai ?
Des idées, oui. Après, prévu, c'est un bien grand mot. Mais on commence à y penser.
Il
oui.
n'y a pas de changement, donc on ne va pas changer non plus. Pour l'instant, c'est voilà, les réponses apportées ne nous conviennent pas. Et puis c'est général. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on anticipe sur l'avenir, parce que on est bien sur notre cabane et puis on nous écoute ici. Donc,
Non, voilà. Et puis on peut pas lâcher. Enfin, si on lâche, on aura fait tout ça pour rien. Donc et puis entre guillemets, le gouvernement aura gagné. Donc faut bien qu'il en lâche. Faut bien qu'il nous en lâche un peu.
Je voulais juste conclure personnellement par rapport à la manifestation de samedi, dont j'en faisais partie, que le mouvement n'est pas principalement que de casseurs. De moi, ce que j'ai vu, les casseurs étaient identifiables. on pouvait les repérer et ça aurait pu être neutralisé dès le départ. Donc quand on dit que les gilets jaunes sont montés pour casser à Paris, il faut arrêter, c'est pas la vérité quoi. Nous on a dû partir à midi, à 14h on est parti parce qu'on n'en pouvait plus de se faire gazer et de ne pas pouvoir manifester correctement. Donc c'est une parenthèse que je voulais préciser parce qu'il faut aussi se rappeler qu'à l'Arc de Triomphe, il y avait quand même un troupeau de gilets jaunes qui entourait la flamme. Et la cause pour laquelle ils sont partis, c'est qu'ils se sont fait gazer par les CRS. Et que la flamme a pu être protégée parce que les gars se sont fait gazer et ils ont dû évacuer. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à que le mouvement n'est pas que de casseurs, comme ça a été dit par la télé, comprendre qu'il y a des gens pacifiques qui sont montés et qu'on s'est fait quand même gazer toute la matinée, quoi. C'était déplorable. Voilà.
Pas de changement donc chez les gilets jaunes de l'A23, ils restent mobilisés et poursuivent leur occupation de leur rond-point. Et pour améliorer leur quotidien, ils se lanceront très prochainement dans un chantier d'agrandissement de leur cabane.